Eh ben merci Monique, une fois de plus, dans notre vie commune, au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste depuis 40 ans d'ailleurs, sans Dieu ni maître, et urbi comme orbi, sans publicité ni sponsor. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, c'est métro République, au fil des calvaires. C'est ouvert du mardi au samedi à partir de 13h. On est bien sûr Onde de choc, le dernier comptoir où l'on cause. L'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Virginie Dilici. Carrière va partir en flèche, ou alors je sais pas comment ça va se passer. La carrière, ça va être terrible. Hey. Oui, et bah, celle d'Adilio Chahi. Hein. Bonjour, oui. On se connaît.
C'est vrai qu'avec Arton, on fait des grandes carrières.
Carrière avec Arton. Et bien sûr, comme toujours, à la technique, bah, Monique, il n'y a aucun problème. Bonjour. Depuis tant d'années. Bonjour, Monique. Alors, on est là pour parler du débat du cœur, hein, c'est ça? Je crois que c'est ça. Hein. Colette Thomas, Antonin Artaud. Alors, c'est au Théâtre de la Talente.
Tout à
jusqu'à
fait.
Quand, Virginie?
Jusqu'au 23 décembre, c'est-à-dire jeudi.
Jeudi. Les horaires?
Alors, ce soir et mercredi à 20h30, relâche le mardi et jeudi pour la dernière à 19h.
Alors, quand on arrive sur cette place Charles Dullin, oui. On est déjà dans le théâtre.
Absolument.
Parce que, je sais pas si le nom d'Alexandre Tronner, ça vous dit quelque chose. C'est celui qui a fait les décors des Enfants du Paradis et oui. D'Hôtel du Nord.
Magnifique.
Et d'Hôtel du Nord. Et on a l'impression d'assister à un décor de théâtre. Premièrement, deuxièmement, c'est quand même la place Charles Dullin. On est en plein dans le théâtre.
Absolument.
Hein? Le théâtre de l'Atelier.
Le théâtre de l'Atelier. Charles Dullin, je ne sais pas si vous savez aussi, vous avez souvenance, c'est dans le film Quai des Orfèvres, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, c'est le monsieur bossu qui fait un vieux satire qui photographie les jeunes dames. Ça vous dit rien?
Moi, ça ne me dit rien, mais je vais voir le film.
Faut le fuir, oui. Les jeunes dames sont charmantes, il n'y a aucun problème. Et là, on contourne, et on arrive à La Talente. Et La Talente, on est encore dans le poème, parce que c'est bien sûr le film de Jean Vigo. Cinéaste anarchiste, l'auteur de Zéro de conduite, et puis surtout de La Talente. Je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, La Talente, le
tout
film,
fait,
non
sûr,
on voit Michel Simon dans Le Petit Matin qui se roule avec ses tatouages et sa graisse sur le pont de la péniche. On est dans la féerie absolue. Alors, Virginie, moi je suis venu vous voir hier. La salle était pleine, d'ailleurs, c'est bien. Et juste avant de partir, de quitter mon domicile, il s'est passé un petit événement comme ça. J'ai reçu un coup de téléphone et je dis j'ai pas le temps, je vais au spectacle. Et là, je me reprends, je me dis le terme, c'est comme on dit dans la conversation, le terme ne va pas. Et je dis bon, ben, je vais au théâtre. Et j'ai eu confirmation de mon hésitation à la fin de votre spectacle, tout simplement, parce que lorsque la scène est devenue noire, il n'y a pas eu un bruit, il n'y a pas eu d'applaudissement. Et moi-même, je ne voulais pas applaudir. Il a fallu que quelqu'un applaudisse avec un peu d'insistance derrière pour faire comprendre que c'était fini. Mais c'était tellement une confession, allant jusqu'à la cruauté et l'impudeur, faut dire les termes, que je n'avais pas du tout envie d'applaudir.
Tout à fait. Et bon, cet espace-temps de noir et de silence qui tombe comme un couperet... C'est un moment qui appartient pleinement, je pense, à la pièce, qui est une sorte d'écho, de chambre d'écho de tout l'accord jeté de ce qu'on vient d'entendre et qui résonne une dernière fois dans l'esprit et dans l'espace.
Si on n'avait pas applaudi, si personne n'avait applaudi, ouais, ça pose problème ou pas ?
Non, pas du tout. Disons que dans mon parcours théâtral, qui devient long maintenant, et que je mène avec Jean-Marc Musial, qui est l'auteur de la mise en scène, nous avons donc une compagnie qui s'appelle, j'aime pas tellement le mot compagnie, mais bon, un laboratoire ou que sais-je, un studio, qui s'appelle Terribilita. Bref, pendant très longtemps, on ne saluait pas. Alors, ça posait toujours plein de problèmes. Comment ça, ta-ta-ta-ta. Bon, alors là, on a décidé quand même que je vienne saluer avec Paco si les applaudissements se manifestent. dans un souci de vraiment de partager, parce qu'en fait là vraiment les gens qui font l'effort de se déplacer, surtout dans cette période, d'assister à une pièce dont ils savent que le sujet va être quand même,
vous savez,
si ce n'est ténébreux, en tout cas assez costaud, et que c'est un véritable effort, et que donc là on partage le moment. Donc les applaudissements, moi, ils s'adressent plus à Colette Thomas, à la notion de théâtre qu'on est en train de vivre, etc.
À la fin de sa vie, Ferret ne voulait pas qu'on applaudisse.
Ah,
il partait en mettant un doigt sur sa bouche comme ça, et il refusait qu'on applaudisse. Magnifique, hein.
Moi, je trouve,
c'est magnifique. Donc, on devait aussi avoir aujourd'hui celui qui fait le prologue.
Pas comme tellement.
On lui en veut tellement beaucoup de ne pas être là.
Non, il faut vraiment pas lui en vouloir.
Surtout que c'était brillant, et j'avais préparé, comme je suis pas un béni oui-oui, un petit reproche à lui faire.
Alors, invitez-le.
Je vais l'inviter.
Et en plus, pour l'enquête infinie, vous avez beaucoup de choses à vous dire.
On va l'inviter. Un tout petit. Alors, je me suis posé la question honnêtement.
Oui.
Si c'est moi qui n'ai pas saisi, s'il l'a oublié intentionnellement, parce qu'il y a une petite ambiguïté que Kilios relève dans son débat, beau lapsus, l'anarchiste courroucé. Quand il parle de la séance de 1946. Au théâtre Sarah Bernhardt, c'est celui qui est en face de notre châtelet actuel lorsque Artaud revient. Il en parle très bien d'ailleurs. Il y a un tout petit détail qu'il ne dit pas, ou qu'il dit, c'est à vous de le savoir, Virginie. Il ne dit pas qu'Artaud, à ce moment-là, est resté dehors.
Alors, il ne l'a pas dit peut-être ce jour-là, parce qu'il faut savoir que la prise de parole de Pacôme est modifié un petit peu chaque jour, parce qu'évidemment il y a une trame, il y a toute la recherche qu'il a menée pour reconstituer le parcours et le portrait de Colette Thomas, il a écrit la postface à la réédition, mais malgré tout sur le moment il se détache de son texte écrit et il nous raconte cette histoire. Alors parfois certains éléments apparaissent, d'autres disparaissent. Voilà, ce soir-là, hélas, mais alors d'autres soirs, il l'a évoqué. Et d'ailleurs, nous avions eu cette discussion à ce sujet-là, qui est quand même un élément extraordinaire.
Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai reçu pas mal d'invitations sur des spectacles concernant Antonin Artaud, comme je vous racontais tout à l'heure hors antenne. Je suis allé voir deux personnages dans un squat avec des guitares électriques, c'était vraiment électrique, c'est le cas de le dire, là. Et depuis quelque temps, ce que je reçois, aussi bien de votre spectacle, le travail d'Ilios ou celui de Mordilla d'ailleurs, c'est redonner une dimension humaine, tendre à Artaud. C'est pas celui qui a satisfait des générations d'intellectuels en disant tiens, il bra, c'est le maudit, etc. C'était un moment trop facile. Il y a une dimension humaine, et de l'imaginer à la porte du Châtelet avec son béret sans dents et son pardoc usé, pourquoi ne rentre-t-il pas? Ça, c'est humain.
Tout à fait. Et d'autant plus si on imagine que Gérard de Nerval s'était pendu à l'endroit du souffleur.
Grande tradition.
Et ça, Artaud le sait très bien. Et quand il se balade autour du théâtre, il est avec Gérard de Nerval à ce moment-là, c'est sûr. Ensuite, moi, j'ai une hypothèse. C'est que je pense que les amis d'Antonin Artaud, à ce moment-là, ont décidé qu'ils n'entrent pas parce qu'ils avaient un peu peur que la soirée dégénère. Alors ça, on n'est pas bien sûr des raisons. Mais Marthe Robert...
C'est Marthe Robert qui en parle,
voilà.
Justement.
Elle sortait régulièrement de la salle et elle venait voir Artaud. Et je me suis toujours dit, tiens, cette histoire de coupure d'électricité au moment où Colette Thomas intervient à la fin de la soirée pour dire fragmentation, je me suis toujours dit, tiens, c'est un coup d'Artaud, ça. Si ça tombe, en douce, il est entré dans le théâtre avec Marthe Robert et il a actionné l'électricité. Et voilà. Moi, j'aime bien rêver des choses comme ça.
Alors, le problème avec cette histoire, c'est plutôt dans le film de Gérard Mordilla qu'on en parle, c'est que Ferdière a lâché Artaud, entre guillemets, beaucoup plus tôt qu'il était prévu. Alors, il était prévu qu'il vienne après cette soirée et qu'il soit libéré après cette soirée. Ce n'a pas été le cas. Et je pense que, bon, ils disent qu'il n'est pas rentré parce qu'il n'était pas bien habillé. Bon, je trouve ça un peu exagéré. Je crois que c'est plutôt comme... parce qu'il y a une période avec Artaud, avec les surréalistes, où il y avait toujours des scandales et Artaud intervenait et il foutait en l'air ses propres spectacles. Justement, je pense qu'ils avaient plus peur qu'il rentre dedans et qu'il fasse un scandale et qu'ils disent, voilà, on ne dit pas bien mon texte ou quelque chose comme ça. Mais c'est assez drôle l'image qu'il est devant le théâtre, au froid en plus.
C'est drôle ou déchirant, j'en sais rien. Donc, Virginie...
Et qu'on le prend pour un clochard aussi, c'est ça qui est marrant. Les gens qui passent, ils pensent que c'est un clochard qui se trouve à cet endroit-là.
Donc, ceux qui sont penchés sur la vie d'Antonin Artaud, surtout les dernières années quand il revient de Rodez, on trouve le nom de Colette Thomas. On sait qu'elle existe, moi je savais qu'elle existait. On sait qu'elle était à cette fameuse soirée au Sarah Bernard. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a un texte. Elle a écrit un texte. Et c'est la moitié de la pièce. La moitié de la pièce ?
Absolument. En fait, le testament de la fille morte, le texte que Colette Thomas a édité en 1954 par Jean Paulhan, elle l'avait signé d'un pseudonyme, René. Déjà, c'est troublant. Et à cette époque-là, le livre était tout de suite tombé dans l'oubli. Et il a été réédité cette année. Il est paru en septembre aux éditions Prairial, une jeune maison d'édition qui est remplie de pépites, là, vraiment.
Qui avait fait les nouvelles révélations de l'être.
Les nouvelles révélations de l'être, qui viennent de publier un texte de Crevel. Et ils ont invité Pacôme Thielman à écrire une postface pour essayer de resituer quand même Colette Thomas. Et Pacôme m'a invité à mener cette recherche avec lui. Donc ça, c'était il y a environ un an.
Vous connaissiez le texte avant, vous ?
Oui.
D'accord.
Il circulait un peu, parce qu'il existait l'édition de 54,
d'accord,
qui circulait un peu sous le manteau, en PDF, disons plutôt. Et donc, bien sûr, je connaissais ce texte. Cependant, je n'en avais pas pris la dimension de correspondance, par exemple, avec Artaud. Parce que quand on ouvre le testament de la fille morte, qui est composé de cinq parties, la première partie s'appelle « Le débat du cœur ». Et quand on ouvre, on voit des petits textes qui ont la forme de, non pas vraiment de lettres, un peu, je pense que c'était des pneus en fait, un peu les SMS de l'époque, mais on voit pas que c'est adressé à Antonin Artaud.
Vous connaissiez son visage, à Colette Thomas ?
Oui, il y a des photos.
Oui.
Ouais. Un visage, quand j'ai fait l'émission à Immordia, j'ai dit, mais c'est une virginité, elle a un visage, une attitude virginale.
Absolument.
Et un visage de jeune fille la plus vierge possible.
Et c'est d'ailleurs cette image qui avait été gardée d'elle, presque d'une petite fille,
oui,
avec une petite jupe plissée, et une sorte de petit ange sous emprise d'Antonin Artaud.
Et c'est en quoi leur travail est très très important, parce que par les amis d'Antonin Artaud, on véhiculait une image de Colette Thomas, d'une jeune fille qui avait écrit, moi je savais qu'elle avait écrit ses livres, mais j'avais l'impression de ce qu'on décrivait, qu'elle avait volé, elle avait plagié Antonin Artaud, qu'elle écrivait comme lui, alors que, comme on peut le constater avec le spectacle grâce à vous, elle a vraiment une écriture qui lui est personnelle, forte, féminine aussi.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que même le fait qu'on n'a pas tant parlé, que Paco n'a pas tant parlé d'Antonin Artaud, mais plus de Colette Thomas, je trouve que c'est important parce qu'il faut la mettre à sa place. On parle un peu trop d'Artaud, alors qu'il y a d'autres gens qui l'ont tiré et qui ont beaucoup apporté, qui ont une vie aussi exceptionnelle que celle d'Artaud, de souffrance.
Elle est quand même très tôt, cette jeune fille virginale, dans la littérature.
Absolument.
Parce qu'elle a épousé Henri Thomas.
Tout à fait.
Et hier, Paco me dit, alors je ne sais pas s'il change tous les soirs, j'en sais rien, il dit. Oui, elle rencontre un poète et non pas le poète. Et déjà, il y a, je ne sais pas, quelqu'un lit Henri Thomas ?
Un petit peu, du coup, moi j'ai lu...
Oui, alors qu'est-ce que c'est pas transcendant ?
Non, là, moi j'ai lu surtout parce qu'il a écrit des cahiers, des sortes de journaux, et qui nous ont permis de voir un peu ce qui se passait avec Colette, etc.
Il a dit une phrase terrible...
Il
a dit une phrase terrible, quand on sait qu'il a passé quelques années avec Colette Thomas, il dit « Toute ma vie durant, je n'ai fait que tenir et tenir.
Mm-hmm. »
Phrase terrible.
Mm-hmm.
Voilà.
Mm-hmm.
Mais il a soutenu quand même jusqu'au bout.
Et tout à fait. Et il aimait aussi beaucoup Antonin Artaud. Et Antonin Artaud aimait beaucoup Henri Thomas.
Enfin, ils sont tous là lorsqu'il revient de Rodez.
Oui.
Ah, c'est la bande, c'est Adamov, Thomas. Qui ?
Marthe Robert.
Marthe Robert, bien sûr. Et puis j'en ai oublié un, très important.
Prevel.
Prevel, là, oui, c'est ça. C'est ça.
Il y a une scène, je crois, qu'ils vont ensemble avec. Ils vont chez Gide, Henri Thomas, et je crois que je l'ai mis dans le livre L'anarchiste courroucé, où l'anecdote est assez rigolote, parce qu'Artaud, il se sent très content d'être. Qu'a revu Gide et qu'il a. Mais bon, voilà.
Donc, cette fameuse soirée, je ne sais pas en quel mois, c'est en 1946,
Hein, au Sarah Bernhardt.
C'est au Sarah Bernhardt.
C'est en juin.
On a vendu des choses. On a vendu, il y a Picasso à donner, des choses comme ça, pour avoir une somme d'argent pour que Artaud puisse se véhiculer dans la vie, quoi. Hein?
Et là, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'on a vendu, on a ramassé énormément d'argent. Je crois que c'est un titre, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais le seul poète ou artiste qui n'a pas vendu, c'était les œuvres d'Antonin Artaud. Mmh. On a vendu tous les Picasso, tout ça, mais Artaud, ses œuvres, ils n'ont pas été vendues ou très peu.
Il était en colère d'ailleurs. Il attendait au café du coin.
Oui, je crois que bon, après.
Ça, on le lit dans le journal de Jacques Prevel. Et il est en colère que ses manuscrits soient partis pour 3 francs 6 sous.
Oui, alors que c'était pour sa soirée, c'est ça qui est drôle.
Vous avez vu, Virginie, à l'époque, ce qui pourrait plus se passer aujourd'hui, un poète comme Artaud arrive à mobiliser une intelligentsia sur sa personne. Et en particulier des gens de théâtre. Puisque je crois que c'était dit lors du prologue hier, il y a Jouvet, il y a tout ça qui sont autour de lui. Et ça, on va arriver au sujet de la pièce, rassurez-vous. Je me disais, avec la voix de Dulin, vous connaissez la voix de Dulin ? C'est remarquable. La voix de Jouvet est remarquable. À l'époque, les acteurs sont identifiés avec leur voix.
Oui.
Vous avez noté ça ?
C'est vrai, oui, oui. Tout à fait. Bien
même
sûr.
Les politiciens, d'ailleurs.
Oui, Charles
de Gaulle.
C'est très bien. Oui, bien sûr, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, donc je vais me répéter. Je ne sais plus qui a analysé la Malraux. C'est le politique à l'état. Le politique, lorsqu'il fait rentrer Jean Moulin au Panthéon, c'est un texte magnifique, une diction magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez en tant qu'actrice, la voix est splendide là. Quelqu'un, c'est un philosophe, je ne sais plus qui, a analysé que c'était la même diction quelque part qu'Artaud, parce qu'ils avaient eu le même professeur.
Oui, ils se sont croisés, je pense, oui, parce qu'il l'a sollicité pour aller au Mexique. Je voulais juste préciser que je connais un acteur vraiment incroyable, puisqu'il restitue la voix d'André Malraux, et ça n'est pas du tout une imitation. Il le fait aussi avec Godard, qui s'appelle David Legrand. Si un jour vous l'invitez, vous ne serez pas déçus, parce que là, c'est vraiment troublant concernant Malraux. Alors,
vous êtes quasiment dans la seconde partie de l'émission quant à vous, mais on va sauter là. Ça veut dire quoi, c'est pas une imitation ? Je vous dirai pourquoi après, d'accord ? Ça veut dire quoi, c'est pas... Alors, soit on imite, soit on habite, soit on restitue. Ça veut dire quoi ? C'est pour vous, c'est pour ce que vous avez fait hier, ce que j'ai vu hier.
C'est pas une imitation, parce que... comment l'expliquer ? Parce que c'est un travail de longue haleine. C'est plutôt être hanté, en fait. C'est plutôt... Ça passe évidemment par la voix, mais c'est pas une copie. Sinon, ce serait pas possible, en fait, de restituer quelque chose de le plus vivant possible, c'est-à-dire qu'il soit dans l'immédiateté de sa donnée. Et là, on se rapproche peut-être de quelque chose de musical, ou qui serait peut-être plus lié au free jazz, ou je ne sais quoi. Enfin, c'est-à-dire... voilà, et en plus, ce sont des textes... par exemple, là, les lettres à Colette Thomas, qu'on n'a pas entendues de la part d'Artaud. Donc il faut bien les absorber dans la profondeur et éventuellement du squelette même. Donc ça demande du temps, en fait. Pour ma part, moi, je suis tombée dans Artaud en 99. C'est la première fois que j'ai commencé à le jouer publiquement. J'ai commencé avec Van Gogh. Van Gogh que j'ai repris régulièrement, qui est une sorte d'étalon d'acteur. Et ensuite, je n'ai plus cessé de le lire, de le travailler, de mener des recherches, de régulièrement le répéter. Ça n'aboutissait pas toujours à une présentation publique, mais je veux dire, ça fait partie de la pratique de l'acteur.
D'accord. Ça, on va y revenir par rapport au spectacle. Est-ce que vous, Ilios, ou vous, Virginie, sentez capable de nous présenter Colette Thomas, bien que notre conférencier ne soit pas là, oui ?
Oui, je ne le ferai pas. Alors, comme lui, mais oui, tout à fait.
Ce qu'on va faire, je vais faire quand même une petite remarque par rapport très importante par rapport au théâtre Sarah Bernhardt, et on écoute un peu de musique et on présente Colette Thomas. Ça vous va, ça ?
Super.
D'accord. Il y a une chose qui est très notable par rapport à cette soirée, c'est que Artaud n'a pas été tendre avec André Breton. J'ai des extraits là, que je crois que c'est Ilios qui les a. Et Breton, très fraternellement, a été magnifique lors de cette soirée. Ça prouve que le surréalisme, malgré tous les tiraillages, les règlements de contrat, a été aussi et surtout une histoire d'amitié et d'amis.
Oh, mais vraiment. Et d'ailleurs, même dans l'autre sens, d'Artaud à Breton, finalement... Il y a des hauts, des bas, mais je veux dire, l'amitié, le respect reste très marqué. Hein. Artaud, après la séance du Vieux Colombier, que tout le monde connaît plus ou moins, et qui était un moment quand même difficile pour Artaud.
Breton n'a pas apprécié quand même cette soirée.
Et donc, mais quand même.
Laquelle il y a,
celle du Vieux Colombier.
Ah, celle du Vieux Colombier.
Mais Artaud lui écrit une très grande lettre pour expliquer par où il est passé, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, il lui explique que tout d'un coup, se retrouver dans un théâtre avec des gens assis, etc., qui ont payé leur place et tout ça, Artaud, ça lui a paru totalement... il était au-delà. Et donc, c'est drôle, parce qu'on retrouve cette notion dans le discours de Breton, au théâtre Sarah Bernhardt, qui est presque un discours de... presque près de Bordien.
Ouais. Hein. Oui.
Vous l'avez en tête.
Oui, oui, oui. Oui.
Je l'ai réécouté récemment, parce qu'on a trouvé avec Pacôme l'enregistrement de cette soirée. Et donc, on a passé... un après-midi hallucinant, parce qu'on est tombé dessus à force de recherche.
De quelle soirée? Du Sarah Bernhardt.
Du Sarah Bernhardt.
Et il n'y a pas la voix de Colette Thomas.
Absolument, elle a été coupée. Oui. Le lendemain, il y a eu une diffusion. Les Bretons aussi ont été coupés.
Vous avez des doutes
Breton
sur Artaud.
La conférence.
Alors, on l'entend, mais tous les passages sur, notamment, tout ce qui concernait la psychiatrie, etc., qui sont vraiment des prises de position de Breton extrêmement politiques, ont été coupées.
Alors... vous avez la certitude, le doute de penser que c'est Artaud qui a coupé l'électricité. Là, moi, je vous dire, je suis aussi pire que vous, ou mieux que vous, j'en sais rien, vous égale à vous. C'est que j'ai entendu la voix de Colette Thomas.
Ok. J'ai elle
entendu.
Existe.
Non. Vous me dites qu'elle n'existe pas. Moi, je suis sûr de l'avoir entendue.
D'accord.
Donc, mais voilà.
On a un doute, puisqu'en effet, la radio a enregistré cette soirée. Elle a fait une diffusion le lendemain. Cette diffusion, nous avons pu l'entendre. Il n'y a pas Colette Thomas et le discours de Breton est censuré en partie. Mais donc, la voix de Colette Thomas a peut-être été enregistrée. Mais cette source, où est-elle? Qui la détient? Etc. Bon, il y aurait encore donc des.
Le discours de Breton, avant qu'on prenne un peu de musique, le discours de Breton est antinomiste, si on regarde bien, de celui d'Artaud. Celui d'Artaud, il faut bien dire les choses, le caca est là. Le caca, l'être et le caca est quelque chose qui existe. C'est une chose que Breton ne peut pas supporter. Et il passe par-dessus ça. C'est magnifique, ça. C'est une chose qui m'a... Non?
Oui, bon, après, moi, comme je travaille, mon prochain livre est justement sur les rapports entre Artaud et Breton. Je trouve que c'est un peu plus complexe. Et
oui, mais l'ordre...
C'est deux mondes très différents, à mon avis, entre Breton...
C'est peut-être complexe, mais c'est dans votre livre aussi, ou dans ce livre sur les textes révolutionnaires d'Artaud. À un moment donné, c'est en 1936, Artaud n'est pas du tout tendre pour les surréalistes qui ont opté pour le marxisme.
Hein. Ah,
oui, mais...
C'est antinomiste. Hein.
Ah, oui.
Mais c'est normal aussi.
D'accord. Oui, c'est... Oui,
parce que c'est
sûr.
Notre vision des choses, et Breton, il tente quelque chose qui n'a rien à voir avec la...
Ce sont deux visions complètement différentes.
Mais il ne faut pas oublier que Artaud, quand il part en Irlande, Breton a peur de la folie d'Artaud. Et Artaud lui envoie des lettres et Breton lui répond jamais. Et c'est vrai que la soirée à Sarah Bernhardt, c'est vrai qu'il est venu, mais c'est quand même le retour. S'il y a eu autant de monde dans cette soirée, c'est parce que c'est le retour de Breton des États-Unis.
Il y a toujours une peur de Breton par rapport à la folie. C'est l'histoire, la fameuse histoire qui est connue que Wilfred Ollam l'emmène voir des rites vaudous. On parlait de rites tout à l'heure, de rites vaudous. Et Breton assiste à ça. Il a peur. Et la peur, et l'âme, qui est un haïtien, il est mort de rire, il dit, pardon, il a écrit La beauté sera convulsive, et là, il est là en train de se débiner, et quelque chose qui ne va pas.
Non mais, en général, dans le sens...
Eh ben, au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Toujours avec le débat du cœur, ben Colette Thomas, Antonin Artaud, avec Virginie Dejici et Ilios. Il y a un nouveau livre qui sort, Ilios, là, qui est sorti, dont on en parlera ensemble.
D'accord.
C'est sur quoi?
Alors, j'en avais un qui est sorti il y a quelques mois.
Ça, c'est la canne de Saint-Patrick.
Sur la canne de Saint-Patrick. Et je viens de sortir là, ces jours-ci, Héliogabale ou l'alchimiste couronné.
D'accord.
Qui parle d'Héliogabale.
On verra ça. Et puis, il y en a un autre. Alors,
qui va sortir plus tard.
Qui m'intéresse beaucoup plus.
Oui, c'est pour ça que je vous ai envoyé.
Il est pour quand, celui-là?
Oh, j'essaierai de. Là, j'ai envoyé dans des maisons d'édition. J'attends des réponses. Et sinon, ça sera. Si jamais j'ai aucune réponse des maisons d'édition, je sortirai l'été, à peu près.
L'été,
il est déjà prêt.
Ben,
mais...
Voilà, il est déjà prêt. Voilà. Donc, cette Colette Thomas, elle vient de où?
Alors, Colette Thomas est née en. Elle est née Colette Gibert en 1918. Bon, là, je vais parler un peu pour Pacom, qui a très bien écrit ça dans sa préface et qui a retrouvé vraiment de manière minutieuse tous les éléments possibles aujourd'hui pour connaître cette magnifique Colette Thomas. Alors, en 1918, elle est née à Draguignan et ensuite, elle a un parcours très brillant. Très, très jeune, à 18 ans, elle a déjà pas mal de diplômes en psychologie, en philosophie, en ethnologie. Et sa famille veut qu'elle enseigne et elle veut faire du théâtre. Donc, très rapidement, elle arrive seule à Paris. Et là, elle se dirige vers Louis Jouvet, chez qui elle prend des cours. Et elle a d'ailleurs une relation assez proche avec Louis Jouvet. Il y a toute une correspondance que j'ai pu consulter, qui est très belle aussi. Et il affectionnait vraiment Colette Thomas, et il croyait vraiment en elle comme actrice. Il voulait même lui faire jouer Ondine. Et bon, elle passe le conservatoire de théâtre, mais elle échoue. Mais Louis Jouvet va quand même lui garder son affection. Et c'est quand même aussi Colette Thomas qui, du coup, plus tard, quand elle devra aider à l'organisation de la séance du Sarah Bernhardt, fera aussi venir Louis Jouvet. Elle introduira la pensée et les textes d'Artaud auprès de Louis Jouvet. C'est elle qui va être un peu sa dramaturge. Donc ça, c'est très intéressant. Elle fait la rencontre aussi des élèves de Charles Dullin, Roger Blin, etc. Et elle joue dans des petites troupes, parce qu'elle fait partie de Travail et Culture, qui est une association d'après-guerre, que je connais un peu, parce que moi je suis du Nord, je suis née à Roubaix, et il y a le siège de Travail et Culture, c'est là-bas, c'est une association communiste, je pense, et qui, après la guerre, s'était donné pour mission de s'adresser au monde ouvrier, avec des œuvres de qualité. Et donc, voilà, et pendant la guerre, il me semble qu'au moment où elle rencontre Henri Thomas, qui lui donc est secrétaire d'André Gide, elle a accès à la bibliothèque de Gide, et je pense que c'est là qu'elle tombe sur le théâtre et son double. Et donc je pense qu'elle le lit en 1942. Et elle commence une correspondance avec Jean Paulhan. Et elle va à la rencontre physique d'Antonin Artaud avec Henri Thomas en 1946, à Rodez. Voilà.
Voyez-vous, ce qui est très notable, après on reprend, très notable, c'est qu'on connaît, entre guillemets, la sauvagerie d'Artaud, ce personnage complètement déchiré, on peut appeler tous les adjectifs qu'on voudra, mais tous ces gens-là, dès le départ, baignent dans une officialité littéraire. C'est-à-dire, on passe par Paulhan.
Oui, alors lui, il est vraiment
littéraire. On passe par Gide, qui est le personnage le plus quasiment l'écrivain officiel de la gauche, du moins de la gauche. Donc dès le départ, ils sont dans le bain de la littérature.
Oui, et dans le cas de Colette aussi de la philosophie, parce que bon, on l'aborde pas là dans le débat du cœur, mais elle connaît énormément de gens aussi du côté de la philosophie, c'est-à-dire que quand elle arrive à Paris, elle poursuit ses études de philosophie jusqu'à l'agrégation, qu'elle passe sur Kant, elle passe l'écrit, elle passe pas l'oral. Et ça lui ressemble dans toute sa destinée. Et elle a une liaison avec Jean-Paul Sartre, qui est vraiment ignoble, on n'a pas préféré pas en parler. Oui. Elle rencontre Merleau-Ponty, elle rencontre Jean Val.
Donc ils sont tous dedans, ils sont tous là.
Ils sont tous là, oui.
Ils sont tous
et
là.
elle est au carrefour comme ça de plusieurs mondes, et elle fait les liens. Mais entre-temps, En 41, c'est-à-dire avant de lire Le théâtre et son double, son père étant mort, à la suite de ça, elle a fait une sorte de crise spirituelle, mystique, après bon. Et elle avait déjà donc connu un internement psychiatrique après avoir voulu rentrer dans les ordres. Et elle a subi des traitements au cardiazole, qui est quand même apparemment, Pacôme nous en parle, il a étudié un peu la question, qui était donc un produit qui provoquait des comas surveillés, des amnésies, donc c'était quand même assez violent. Et donc quand elle lit Le théâtre et son double, elle a déjà rencontré cet univers, elle a déjà subi ça.
Et Artaud aussi en a subi.
Et donc quand ils se rencontrent, tout à fait, quand elle va à sa rencontre à l'asile de Rodez, elle a été déjà internée.
Elle va à Rodez.
Oui, elle va à Rodez.
D'accord, faut le dire. Ça,
elle va à Rodez avec Henri Thomas pour rendre visite à Artaud. Et l'asile, elle connaît déjà, elle. Hein, donc tout de suite, ça les rapproche. Hein, parce qu'on dit souvent, c'est le fait d'avoir rencontré Artaud qui l'a fait dépérir. Or non, elle avait déjà connu l'internement psychiatrique et c'est ce qui fait qu'ils se sont reconnus sur un certain plan, non seulement du théâtre, mais aussi celui-là.
Sa fameuse phrase d'Artaud, qui puis elle est bien placée aussi, elle aurait pu la dire, comme quoi ce sont les médecins qui créent la maladie. Mm-hmm. Là, tous les deux, par rapport à la psychiatrie, il y a un lourd contentieux. Hein.
Vraiment.
Voilà, il y a un lourd contentieux. Donc ils vont se rencontrer. On va revenir quand même à, Ilios en parle dans un de ses livres, aux amours d'Artaud. Et à ce qu'a été la vision de la sexualité chez Artaud, Ilios. J'ai envie de dire que oui, il va le dire à beaucoup mieux. Ouais, oui, tout ce qui concerne la sexualité, Ilios connaît. Hein,
Oui, moi, la sexualité, c'est ma spécialité. Mais en plus, c'est drôle parce que j'en parle pas tellement dans ce livre-là. J'en parle dans un futur livre qui s'appellera Pour en finir avec le jugement d'Artaud, où j'ai un chapitre consacré sur ça. Mais après, c'est un peu difficile d'en parler parce que. Je vais rebondir sur Colette Thomas. Je pense que ce qu'il y a en Antonin Artaud et Colette Thomas, c'est qu'ils ont une vision ésotérique et philosophique du monde. Et quand on va parler de sexualité et d'Artaud, elle s'intègre dans cette philosophie. C'est plus le refus de sexualité chez Artaud, c'est un refus de cette réalité et de ce monde. Mais voilà, je pense que je vais en parler brièvement parce que c'est un peu plus complexe que ça. Après, c'est vrai qu'Artaud, il prenait beaucoup de drogue, alors voilà, la sexualité n'était pas toujours au rendez-vous. Comme je raconte avec la petite anecdote avec Anaïs Nin, je sais pas si vous vous référez à ça.
Non, mais je parle pas à ça du tout. C'est qu'il a un amour, c'est Jenica.
Oui, pas que. Moi, personnellement, le.
Mais Jenica... il lui reproche. Vous avez reproduit la lettre. Il lui reproche de penser au sexe et pas de penser aux choses de l'esprit.
Alors oui, sur ça. Mais ça, c'est le côté un peu vieux jeu d'Artaud parce qu'il a aussi son côté vieux jeu.
Et il dit qu'il veut une femme, en fin de compte, qui s'occupe de lui. J'ai le texte là.
Lettre de ménage.
Oui, c'est la lettre de ménage. C'est ça.
Oui.
Vous la connaissez, Virginie?
Bah oui.
D'accord.
Oui.
Voilà, et donc il dit ça. Donc par la suite, il va quand même condamner le coït de l'homme et de la femme. Il y a des textes comme ça chez Artaud.
Oui, hein? Parce que c'est le coït de l'homme et de la femme qui ont créé cette réalité et cette façon de créer l'humanité que chez Artaud, ça doit aller beaucoup plus loin. Et ça dépasse...
Ça dépasse son cas personnel, puisqu'il en fait vraiment une idée politique.
Oui. Et je crois qu'il a imposé à...
Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a cette
dimension. Thomas, il avait imposé de ne pas coucher avec des hommes, il lui interdisait de...
Il lui interdisait pas, mais c'est vrai que, après, on va développer peut-être plus Colette, c'est-à-dire que lui, il veut un rapport, il veut qu'elle devienne actrice du théâtre de la cruauté et qu'elle naisse à la poésie. Et donc, il veut pas de mélange. Hein, il le dit à un moment donné, je ne veux pas vous léser ni moralement, ni physiquement. Mais pendant ce moment-là, elle, Colette, qui est quand même un être assez extraordinaire, qui vit toutes les choses de manière extrême et qui fait expérience de la réalité dans ce que ça peut avoir de plus extrême. Elle le fait aussi dans la débauche.
Il y a une expérience mystique.
Absolument.
Il y a un côté mystique, vite fait, on va très vite, hein, qui serait très proche des écrits de Saint-Thérèse d'Avila. Je ne sais pas si ça vous...
Elle parle de Kierkegaard, voilà. Comme étant
mais
vraiment...
Mais que ça a été inspiré par Platon, par l'amour platonique, je veux dire, même voilà. Les courants chrétiens.
Et je dirais même le débat du cœur, vous qui aimez tant la poésie, bien sûr, on entend Villon aussi. Bon. Hein, c'est-à-dire cette dimension du Moyen-Âge et de l'amour courtois, la fleur inverse, etc. C'est dans Colette.
Et l'amour courtois, je ne sais pas, mais...
Consenté. Oui.
Donc, c'est un phénomène du corps.
Le débat du cœur, c'est le titre
oui,
le débat d'un...
Il y a chez elle, il y a aussi le débat du corps.
Oui.
Parce elle maltraite aussi terriblement son corps. Oui. Hier, moi, j'ai tremblé. Je tiens à vous le dire, vous lui direz au conférencier, lorsqu'il raconte l'histoire des pieds. On raconte l'histoire des pieds ?
Bien sûr.
Allez-y. Non, si j'ai bien compris, à un moment donné, je ne sais plus qui lui dit qu'il faut qu'elle s'enlève des phalanges des pieds. Je sais pas qui lui a dit d'ailleurs si ça.
Enfin, je ne sais pas pourquoi elle voulait faire cette opération où elle avait un souci et son ami Dufilo, qui était un acteur de Dulin, qui est bien connu, Jacques Dufilo, lui a conseillé un docteur qui était vraiment un charlatan apparemment, qui lui a enlevé des phalanges de ses orteils. Et voilà. Quand même, ce qui est extraordinaire, c'est que donc elle a beaucoup souffert, elle a été longtemps incapable de marcher normalement et tout ça, et elle a voulu faire un collier avec ses phalanges d'orteils et elle voulait l'offrir à Artaud.
Oui, ça s'appelle.
Donc là, on est.
Breton a signé l'anthologie de l'humour noir, mais on est en plein dedans.
C'est
là.
Pas mal, ouais.
C'était en plein dedans.
Ouais.
Alors. Le mot cruauté arrive là. Entre les deux, déjà, du côté d'Artaud, c'est déjà pas mal.
Ouais. Hein,
mais elle aussi est pas mal.
Tout à fait.
Voilà.
Oui, parce que cette dimension de mutilation qui est donc dans son corps avec cette histoire de pied totalement. À la fois ça fait rire, en même temps c'est monstrueux. Pour une actrice aussi, on se disait cette perte d'équilibre presque voulue. Mais c'est aussi cette mutilation de la voix, elle qui ne passe pas son oral d'agrégation, qui n'est pas dans l'enregistrement du jugement de Dieu au dernier moment. Elle devait dire le texte tout au bruit.
C'est Maria Cazares qui l'a remplacée, ça ?
Au débeauté. Et alors récemment, j'ai lu, vous connaissez les Virmaux qui ont fait un travail extraordinaire autour d'Artaud sur toutes ses facettes. Et dernièrement, j'ouvre un livre de témoignages de tous ceux qui ont participé à l'enregistrement de l'émission radiophonique pour en finir avec le jugement de Dieu. Et Maria Cazares dit, moi j'étais là dans le studio, on m'avait demandé de venir lire le texte, etc. un peu au dernier moment. Artaud était assez effrayant, c'était assez désagréable de le voir dans cet état, etc. Et en plus, dans un coin du studio, il y avait une femme qui pleurait. Alors Virmaud demande, et cette femme, c'était Colette Thomas ? Et Maria Cazares dit, peut-être.
Oui, parce que c'est elle qui devait lire le texte à la place de Cazares, c'est ça ?
Tout à fait.
Il faut le préciser.
Et donc, et ensuite, il y a ce silence chez Colette Thomas, puisqu'après la mort d'Artaud, elle rentre, elle fait un peu de traduction. D'ailleurs, elle traduit des livres concernant la psychiatrie soviétique, par exemple, pour les puffs. Et puis, à partir de l'édition du Testament de la fille morte, en 1954, elle va vivre dans sa famille et elle disparaît complètement jusqu'en 2006, date de sa mort.
Ceux qui ont fait des comptes rendus du théâtre au Sarah Bernhardt là disent qu'elle avait une voix magnifique, hein. Et il y a un texte de Charles Estienne.
Ouais.
Charles Estienne qui était critique à Combat, et c'est très, si ça vous intéresse, je sais pas si vous l'avez lu, mais le premier poète d'aujourd'hui publié chez Segers, c'est la première fois qu'on fait rentrer un chanteur chez les poètes d'aujourd'hui, c'est Léo Ferré, et Charles Estienne a écrit 50 pages d'introduction à Léo Ferré, c'est magnifique. C'est magnifique. Et pourquoi je vous dis ça, et puis après on revient au débat du cœur, c'est-à-dire que celui qui écrivait à l'époque, il y avait derrière quelque chose.
Ah oui, oui.
Il y avait quelque chose derrière.
Il a pas raté.
Voilà, il a pas raté. Vous pouvez le trouver, le texte, ouais. C'est le Léo Ferré, l'introduction, là, effectivement, on est en plein dedans, il y avait quelqu'un derrière, voilà.
D'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait dire à Artaud dans une des lettres à Colette, vous n'imaginez pas la joie que m'a donné l'article de Charles Étienne dans Combat.
C'est pour ça
que
je voulais en parler.
Ouais.
Donc, il va mourir en 48, un mois après le Vieux Colombier.
Après
le jugement de Dieu, pardon. Donc il va mourir. Et elle va simplement mourir en 2006. C'est ça ?
Oui.
Alors.
Ça fait moins poète maudit.
Oui, oui, c'est... Alors, Mordilla...
Si, parce que c'est... Elle le dit elle-même, c'est des années d'un amour qui perdure pour Antonin Artaud, oui. Dans le silence et dans le supplice.
Alors...
Et c'est-à-dire que là, on est aussi du côté de Rimbaud, peut-être, hein. C'est-à-dire qu'il donnera par son silence...
Oui.
Absolument, puisqu'elle parle de Rimbaud dans le testament. Bon, pas dans, forcément dans le débat du cœur, mais dans d'autres parties. Et elle a d'ailleurs travaillé comme actrice la saison en enfer. On pense à Vierge folle et Poux infernal d'ailleurs. Et elle choisit ce silence. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement conscient, même si évidemment elle a eu ses problèmes d'internement qui ont perduré après elle a subi des électrochocs et tout quand même. Mais je veux dire, c'est un peu le socle aussi de cette histoire et de cette œuvre qu'elle donne avec ses 50 ou j'ai pas compté, mais 50 ans de silence.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'est-ce qui s'est passé jusqu'en 2006.
On sait où elle a vécu.
Oui, Alain Dartel.
Voilà.
Mais d'après ce que laisse entendre Mordilla, qui l'a rencontré.
Il a essayé de l'interviewer pour son film.
Et elle végète. Elle végète.
Elle végète, c'est-à-dire qu'elle a dit quelques phrases, quand même, qui ont un caractère presque malarméen ou une sorte d'énigme poétique, je ne sais pas.
Nous restons debout dans cette pièce où le soir tombe. Colette Thomas parle avec l'accent du midi. Elle dit « Problèmes, questionnaires, marquant les finales à la manière d'une institutrice aidant ses élèves. » En fait, j'entends « Problèmes, questions ». Elle dit « Un blanc total, c'est très loin, on est quatre. Problèmes, questions, on ne s'explique pas, c'est trois, on est quatre. » Donc c'est très énigmatique, c'est très très sympa. Et là, on arrive vraiment dans notre sujet. On va faire une petite parenthèse. C'est toujours le fruit des psychiatres et des médicaments. Hein. C'est dans cet état-là, il y a pas de problème quelque part là. Comment vous expliquez au niveau de la voix, elle qui est montée sur scène, qui a dit des textes difficiles comme ça, qu'elle puisse retrouver son accent? Puisque c'est Mordilla qui le note, donc ça doit être notable. Son accent du midi qu'elle accentue comme ça. Ça m'a paru quelque chose d'extrêmement étrange. Vous le saviez ou pas? Non.
Je m'en souvenais pas.
D'accord.
Non, je sais qu'en tout cas, un accent, ça ne se fabrique pas. Mais ça a l'air de se retrouver. Je n'ai pas de réponse.
Je trouvais ça très curieux.
On ne peut pas dire un texte d'Artaud en ayant l'accent du midi.
Et voilà. Oui, tiens, c'est... Non, je ne pense pas. Non, moi, je ne pense pas.
Pourquoi non. pas Artaud, il avait sûrement un accent marseillais. Voilà.
C'est pas Fanny et César. Bon, on va écouter un peu de musique et puis on plonge dans ce que j'ai vu hier. D'accord. Voilà.
Thank you.
ben non, Monique, je me frotterai plus les mains en direct au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Virginie Di Ricci, hors antenne tout à l'heure. Petite promesse, petite parenthèse. On m'a dit, je vous ai dit quand même, dire quelques mots du théâtre Alfred Jarry et du théâtre de la cruauté. Hein? Alors, on a parlé des phalanges. Je crois que vous voulez corriger quelque chose par rapport à cette cruauté des phalanges coupées, quoi.
Tout à fait. Évidemment, j'ai employé le mot de mutilation, etc. Mais je voudrais vraiment pas donner une image de Colette du côté de ce qu'on pourrait imaginer comme une sorte de masochisme, etc. C'est pas du tout ça, parce qu'il faut comprendre que Colette est aussi une philosophe, une poétesse visionnaire, et ça, Artaud l'a reconnu. Et elle fait expérience de la réalité, et ensuite, elle restitue dans la pensée et dans l'écriture ce qu'elle en tire, donc d'une certaine manière aussi, sur un certain plan de la cruauté. Hein. Et donc, c'est pas seulement une histoire de souffrance. Évidemment, l'extrémité des situations, évidemment, amène forcément à une souffrance psychique ou physique, mais ça n'est pas recherché en tant que tel. Mais le monde étant ce qu'il est, voilà à quoi, en général, ça aboutit. Mais elle le transgresse, elle le dépasse par la pensée et par des fulgurances que vous avez, j'espère, reçues hier de sa part, qui sont impossibles à exprimer autrement.
Virginie, c'est très drôle parce que parmi les poètes surréalistes qui sont restés fidèles à Artaud, c'est quasiment le plus joyeux, le plus terre-à-terre, le plus femme-femme, le plus promenade-promenade, c'est Robert Desnos.
C'est un grand ami.
Oui, un grand ami.
D'Antonin.
Voilà. Mais je vous dis que par rapport à cet acte, à cette coupée les phalanges, dans cette histoire, dans ce qu'on voit, j'ai dit cette histoire, tiens, je maintiens le terme, dans ce qu'on voyait, c'est, même si vous parlez à un moment du mot bonheur, si vous l'avez dans la tête, vous me le direz, là, on n'est pas dans une joie. C'est ça, je veux dire, c'est ça.
Non. Voilà. Il y a beaucoup d'humour du côté d'Artaud, malgré tout, ça on connaît. Enfin, on connaît. On s'entend, c'est pas non plus. C'est un humour destructeur tel que lui-même le souhaitait. J'espère y arriver par moment, mais ça, c'est vraiment important, en fait. Et du côté de Colette, non, pas du tout, en effet. Non. On n'est pas.
Ça intervient quand?
C'est-à-dire que Colette, c'est vraiment intérieur, c'est-à-dire c'est un théâtre intérieur. Vraiment, là, on se rapprocherait presque plus d'un jeu cinématographique. Les notions, c'est plus, ça se rapproche peut-être plus de notions comme de l'extase ou de choses comme ça.
C'est ça.
Plutôt que de...
Félicitations au metteur en scène niveau plastique aussi, hein, vous lui direz, je ne sais pas s'il nous Musial. Écoute.
Oui, c'est j'espère, c'est son anniversaire, ça lui fera très
bon
plaisir.
Anniversaire. Bon anniversaire. Dites bon anniversaire au metteur en scène.
Bon anniversaire.
Non, d'accord.
Non, mais je voulais dire sur le spectacle, justement, ce qui était très intéressant, parce que le spectacle est très fort et je le conseille fortement.
Oui, moi aussi.
Ce qui était très fort, c'est que, justement, ce que tu dis maintenant, quand elle jouait Colette Thomas, elle avait quelque chose de plus fermé, de plus intérieur, et quand elle jouait à Antonin Artaud, c'était quelque chose de plus extérieur. Et ce changement d'état était très intéressant. Et voilà, je voulais le souligner et dire bravo pour ce travail.
Merci beaucoup, Elios, de ta venue. Et très heureuse de la rencontre.
On reviendra en conclusion, très vite fait, sur le théâtre Alfred Jarry et le théâtre de la cruauté, parce que là, il m'a tendu la perche, je vais sauter dessus. Alors, je voudrais faire, si je voulais faire une chronique pompeuse, plus élaborée, c'est-à-dire écrire quelque chose, je me disais, mais qu'est-ce que tu écrirais? Et j'écrirais ceci. J'écrirais un Artaud habite Virginie. Ça vous va déjà? Mais hier, et c'est toute la clé du spectacle, Virginie a habité Artaud. Et là, peut-être le troisième thème ne va pas vous plaire. Elle l'a sexualisé par la voix de Colette Thomas. Voilà.
Et poussé un peu, du coup, dans ses retranchements.
C'est-à-dire?
Eh bien...
Poussez qui dans ces retranchements?
Artaud.
D'accord.
Enfin, voilà. C'est Colette, ce n'est pas moi.
Ça vous va? Est-ce que ça vous va, ça? Est-ce que ça vous va?
Oui, parce que c'est
j'ai
juste...
On va revenir là, même là. Un côté orgasmatique entre les deux. C'est pour ça que j'ai pensé à Sainte-Thérèse d'Avila.
Oui, mais complètement.
Voilà. La Sainte Thérèse d'Avila, c'est-à-dire que ce n'est pas l'image de Dieu, mais on est dans une recherche de l'être, dans une effusion comme ça. Oui, ça vous va ?
Complètement.
Vous pouvez revenir.
Mais Artaud a plusieurs facettes, et c'est vrai que sa facette féminine, on ne l'a jamais explorée. Alors, justement, parce que j'ai incarné Artaud en tant que comédien pendant 6 ans, dans un monologue qui se ressemblait en plus un peu dans la forme, c'est ça qui était assez fort. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments que j'avais l'impression de voir mon double féminin. En tant que, parce que on a toujours une image très masculine d'Artaud, mais là, ça donnait une autre dimension. Et moi, ça m'a beaucoup troublé de voir cette image-là. Et je trouve qu'elle est vraie. C'est ça qui était terrible. Ça.
Oui, mais elle est au cœur de la question du théâtre. Et Colette Thomas, qui a écrit dans Le Testament de la fille morte une partie qui s'appelle « Du véridique théâtre », dit bien que à partir du moment où les sexes se distinguent, la création dramatique n'est plus possible. C'est une pensée personnelle, elle l'a éprouvée elle-même, et je suis sûre que ça n'est pas un calque d'Artaud. Mais on trouve aussi ces idées-là, bien sûr, dans les théories d'Artaud sur le théâtre, les questions du masculin, du féminin, ces forces-là, etc., qui sont en guerre.
Je me suis trouvé un tort hier en allant vous voir. C'est celui de connaître la voix d'Artaud. Et la personne jeune qui va aller vous voir ne connaît pas la voix d'Artaud.
Très intéressant.
Voilà. Et je me suis dit, allez, tu te reportes des années en arrière et tu connais pas la voix d'Artaud. Et comment, on arrive à tout à l'heure sur l'imitation, tout ça, et comment tu vivrais cette voix, comment tu vivrais ce que fait Virginie avec sa voix, Virginie ? Ce travail que vous avez pour une voix que vous inventez, celle de, forcément, puisque vous ne l'avez pas entendue, c'est Colette Thomas, et une voix que vous connaissez, c'est celle d'Artaud.
Alors, disons que dans la question d'Artaud, c'est-à-dire il y a vraiment la question des mots. Hein, à la fin de la première lettre adressée à Colette Thomas, il lui dit « Nous nous retrouvons dans un théâtre à même la terre et la matière, où les bûches des mots sont des bêtes qui toutes éclatent en sanglots. » Magnifique. Mais ça dit beaucoup, en tout cas là pour la pièce. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque mot une énergie, un son particulier à trouver. Et là, c'est presque même lettre à lettre. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'après Artaud, on va voir apparaître le mouvement lettriste. Je comprends très bien pourquoi. Parce qu'idéalement, il faudrait presque dire... lettre à lettre.
Vous êtes la première personne depuis longtemps que j'entends me parler du mouvement lettriste, ça me fait très plaisir. Parce qu'on les a pris pour des 12 oiseaux, et c'était pas ça. Par contre, vous allez travailler dans votre mémoire, à deux fois, ça arrive deux fois dans le texte hier, avant, voilà, faut trouver un tout petit peu avant, un tout petit peu après, d'accord ? Il y a le rapport son et con.
Oui.
C'est quoi ? Alors, c'est quoi ?
Alors là, c'est le poème, un fragment du poème que Colette Thomas a dit lors de cette soirée au Sarah Bernhardt, et c'est Artaud qui lui avait fait travailler ce texte en particulier qui s'appelle « Les enfants de la mise en scène principe », qui commence comme ça. « Car les enfants de la mise en scène principe ne sont pas dans le son, mais dans le con, qui n'est pas le grenier originel d'un principe, mais une effroyable mastication. Pas dans le ton, mais dans le con, coude extrême de cette lame de fond qui avance avec son horrible denture d'être, fait pour avaler tous les êtres, mais qui ne savent jamais où ils sont. »
Et toujours pareillement chez Artaud, la structure syntaxique est parfaite. Vous avez remarqué ? Ceux qui pensent que c'est des cris ou des onomatopées, très tôt, Artaud a une structure, une syntaxe vraiment très, en fin de compte, très classique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Elios.
Oui, bien sûr, mais il suffit de lire Elio Gabal, par exemple. Mais Artaud est quand même un auteur de la vieille école. Il n'est pas... s'il est près de Gide ou tout ça, c'est seulement... même Rimbaud, il écrit très bien. Je veux dire, après, c'est la force qui... C'est la pulsion qui est différente, mais c'est quelqu'un qui sait très bien écrire, Artaud. Et je pense que tout le monde à l'époque savait bien écrire. Ça faisait partie. dans les années 30.
Oui, c'est pour ça que je parlais de Charles Estienne tout à l'heure. Essayez de le trouver, le texte de Charles Estienne sur Léo Ferré, vous allez voir, c'est un plaisir. Il y a 50 pages, c'est un plaisir. Alors, tout à l'heure, vous étiez en discussion, Virginie, avec Elios. Là, j'ai quand même tendu l'oreille à ce que vous disiez, de façon très indiscrète. Vous parliez de l'Égypte, c'est ça ? Des rites égyptiens ? Et moi, en tant que profane et néophyte, quand je vous ai vu rentrer sur scène, ça ne m'a pas du tout fait penser à l'Égypte. Hein. Ça m'a fait penser au Kabuki, au Théâtre Nô. Hein.
En effet. Disons que pour
l'Égypte...
Oui. Non, c'est rigolo. Mais oui, parce qu'évidemment, on ne peut jamais, serrer Artaud à un seul endroit. Parce qu'en fait, il a posé des bombes à tous les endroits de la culture et il a fait ressortir des éléments enfouis, disparus, etc. Redonner des forces. Enfin, il a touché à tous les mots. C'est un révolutionnaire extraordinaire. Et donc, concernant l'Égypte, c'est vrai que j'ai mené une recherche il y a quelques années et que je poursuis. Donc, voilà, j'ai peut-être déjà parlé. J'ai fait une conférence lecture au Mont en l'air en 2013 là-dessus, sur la question du théâtre égyptien ancien, qui est une réalité archéologique, que j'ai croisée avec l'œuvre d'Antonin Artaud, qui est nourrie, en fait, de cette idée que la personne égyptienne ancien, enfin l'égyptien ancien était composé de au moins neuf dimensions, et pas seulement le corps et l'âme, ou le corps, l'esprit, l'âme, au moins neuf dimensions qui sont l'ombre, le double, le cas, le bas, le cadavre, la momie, enfin c'est un peu, voilà, il faut toujours s'en souvenir, le nom. Et j'ai relu tout Artaud à l'aune de ça, et je me suis dit, pour essayer d'appréhender ce que pouvait être le théâtre égyptien ancien, Antonin Artaud était vraiment essentiel. Et il pouvait renouveler complètement cette idée du théâtre par le fond, c'est-à-dire en faisant sauter aussi cette idée trop convenue du théâtre grec, etc.
Ah oui, alors c'est là-dessus que je voulais arriver, on ne va pas être d'accord. Il y a aussi, quand il est mieux que moi, puis vu ses origines...
Grec.
Malheureusement, nous avons un grec avec nous aujourd'hui. Bon, c'est une, pour les Grecs, le théâtre est une catharsis. Ce que le spectacle d'Artaud, c'est une catharsis.
Oui, mais il n'est pas contre ça, je pense pas. Au contraire, il apprécie beaucoup Eschyle, etc. Mais Artaud, c'est quelqu'un qui va essayer toujours de reculer le fond du temps et d'aller dans le fond. Et ça revient beaucoup dans sa poésie. Les choses enfouies, le fond du cœur, le fond du temps. Il y a toujours plus profond. Plus profond, c'est pour renouveler par le fond toute la culture, en fait, et donc de faire sauter, il faut constamment faire sauter les idées qui sont trop ankylosées, qui perdent leur force.
Mais il n'est pas répondu par rapport au Kabuki, au Théâtre
Oui.
Nô.
Alors évidemment, là, dans ce que vous avez vu, en effet, on démarre par un fragment qui est pris donc dans Suppos et Supplication, l'ouvrage d'Antonin Artaud, dans lequel on trouve les lettres à Colette Thomas. Et dans ce premier texte d'ouverture de Suppos et Supplication, on trouve ce fragment, et il y a aussi Colette Thomas pour souffler les gendarmes de haine de Paris à Nagasaki. Donc là, on est en 46. Donc, c'est la bombe atomique. Et donc, c'est aussi l'expression japonaise du théâtre, donc, qui s'est déplacée avec Artaud vers le buto, vers toutes ces formes extrêmement orientales du théâtre qui sont renouvelées grâce à Artaud. Et donc, ça a été une des sources d'inspiration pour moi, d'autant que... j'invite aussi Artaud dans notre théâtre. Ça paraît un peu prétentieux à dire, mais on a quand même une base qui est formée à partir beaucoup du travail de Meyrold en Russie, qui est quelqu'un qui s'est beaucoup penché sur les théâtres traditionnels extrêmement orientaux. Donc ça, c'est notre structure familière théâtrale, j'allais dire. Et donc là, ça se prêtait très bien, mais c'est une touche. Ça n'est pas non plus... voilà, mais c'est peut-être un peu dans le costume, dans une sorte de rapport de corps qui se rapproche... je ne pratique pas le buteau comme une spécialiste, mais enfin j'en ai déjà un peu pratiqué, et ça fonctionne bien avec cette idée aussi qui émane des lettres d'Artaud, quand il dit par exemple qu'il s'adresse, qu'il a l'impression qu'il est l'âme d'un arbre qui s'adresse à l'âme d'une fleur, s'agissant de Colette. C'est une image magnifique.
Artaud, loin, qui se veut loin du politique, il y a quand même Nagasaki qui est là.
Bien sûr. Hein,
et son dernier texte, pour en finir avec le jugement de Dieu, c'est quand même contre l'impérialisme US.
Complètement.
Je sais pas si vous en... oui.
Absolument, et c'est très bien que vous en parliez, parce que on ne fait que redécouvrir tout le temps ce texte. Il y a un dernier message, et ce dernier message, c'est quand même les Tarahumara. C'est-à-dire le message indien. Et c'est fondamental, parce que là, je m'y intéresse de plus en plus, notamment parce que, et là je tiens à en parler aussi, j'ai découvert le cinéma, la fresque cinématographique de Raymond Carrasco et Régis Hébreau. Régis Hébreau est chef opérateur, et Raymond Carrasco, qui est disparu hélas, était philosophe et cinéaste, et ils ont fait 20 voyages dans la Sierra, et ils ont pu filmer les rites Tarahumara de manière magnifique. Et j'ai redécouvert à cette occasion les textes d'Artaud, et j'en ai pris la mesure grâce à ce cinéma.
La culture rationaliste de l'Europe a fait faillite, et je suis venu sur la terre du Mexique chercher les bases d'une culture magique qui peut encore jaillir des forces du sol indien.
Voilà. Et c'est drôle parce qu'on parlait de Breton et d'Artaud tout à l'heure, de cette espèce de relation très bizarre, et ce parallèle est étonnant aussi avec le Mexique, puisque Breton est allé à la rencontre des Indiens Hopi et Artaud les Tarahumara. Ah. Là, il y a quelque chose, je pense, pour essayer de mesurer.
Non, mais le sujet est très vaste, mais à mon avis, je pense qu'il ne faut pas réduire. Ce que dit Artaud à une frontière ou à un pays.
Bien sûr.
Parce que c'est beau. Après, il faut parler de René Guénon et de la tradition primordiale, mais dans l'esprit d'Artaud, les choses essentielles peuvent se trouver dans n'importe quel pays.
Je ne supporte pas René Guénon.
Mais je comprends tout à fait.
Je ne supporte pas René Guénon.
Et dans n'importe quel temps.
Mais c'est pas une question de. Moi, je suis pas. Moi, j'ai lu René Guénon pour comprendre Artaud, parce qu'Artaud lisait René Guénon. On va pas. Je fais pas l'apologie de.
J'ai trouvé que dans votre livre.
Il y a beaucoup de Guénon, oui.
Vite fait. La couverture est très belle. Vous êtes. C'est quoi cette couverture, vite fait?
Ah, c'est un tableau du 19e siècle.
Allez-y.
Alors, il s'appelle Gritsch, qui est très connu.
Mais...
Voilà, je le.
On est mal parti.
Oui.
C'est pas grave. Et j'ai trouvé effectivement.
C'est l'homme face à la mer,
que c'est sur ce texte d'Artaud et sur la canne de Saint-Patrick, vous utilisiez René Guénon, qui est un mystique de première. Et
parce qu'Artaud a failli écrire un livre
sur
Guénon.
Oui, peut-être. Bon, après, mais c'est vous. C'est quand même comment vous travaillez là-dessus et comment vous l'interprétez.
Alors.
Et oui, bien sûr.
Sur la façon
dont. Ça vous inspire, René Guénon, Virginie? Non, c'est
oui, dans le sens où Artaud s'est penché sur René Guénon, qui lui-même un jour a réagi en disant qu'Artaud là avait parlé de lui, mais que ça correspondait pas. Mais
oui,
mais Pacôme me connaît beaucoup mieux que moi, et c'est vrai
que
il viendra.
C'est quoi ce titre, suppo et suppliciation? C'est quoi ce titre? Ça recouvre quoi?
Alors c'est
déjà le mot suppliciation, si vous pouvez le.
Une question.
Oui.
Oui. Ça vient de supplice, certainement. Mmh. Beaucoup de gens font l'erreur, et moi j'ai dû la faire aussi. Supplication.
Oui, bien sûr. Et suppo là-dedans. Et suppo. Mmh. C'est quoi le suppo?
Le suppo, c'est.
Comme supporter. Je crois que j'en parle, mais j'ai oublié, mais je crois que c'est supporter. Enfin, après, c'est des jeux de mots d'Artaud. Il faut vraiment que j'ai le papier devant pour pouvoir répondre clairement. Mais d'ailleurs, je crois que j'en parle dans l'anarchiste courroucé. Mais voilà, il y a le mot supporter, et le supplice aussi. Après, je crois qu'il y a un autre jeu de mots, mais j'ai oublié de mémoire, je ne pourrais pas le citer. Mais...
Bon, puisqu'on est arrivé au supplice, là, je voulais en arriver. Le théâtre de la cruauté, on peut en parler un petit peu?
Oui.
Là.
J'aimerais parler d'abord d'un dessin, puisque le théâtre de la cruauté, c'est un dessin d'Artaud assez connu, avec ce qu'il appelle des carafes et des bouchons de carafes. En fait, on dirait des cercueils avec des têtes, et d'ailleurs, on dirait presque des portraits de Fayoum. Bon, et ce dessin s'appelle Théâtre de la cruauté, donc on peut partir de là, c'est pas mal. C'est donc une excavation. De quoi? Des filles de cœur. Donc c'est une excavation du cœur des filles, c'est-à-dire des êtres qu'il a aimés, mais au-delà de lui-même, c'est vraiment d'aller chercher, comment dire, il le dit lui-même, la racine du péiol enfoui du cœur. C'est comme ça que je comprends les choses. Et alors, pour faire ça, il y a différentes façons. Lui, il a trouvé une technique à partir des souffles. Ça passe donc par la voix, parce qu'on peut, on peut faire advenir des êtres, en fait, par la voix. On peut les faire revenir. Et on peut exprimer vraiment la profondeur du cœur, mais pas au sens romantique. Hein, attention, hein. J'espère que c'est entendu, que c'est vraiment parce que bon, on revient pas, hein, donc lui il le sait, il arrête pas de le dire, on va pas revenir, donc comment on fait?
Et c'est à l'époque qu'il va jouer les Chensi, cette pièce de dessin.
Alors, si on le replace de manière historique, le Théâtre de la Cruauté, il a plusieurs périodes. Il démarre dans les années 30, je dirais 33, le moment où il arrête le cinéma et où il écrit ce texte incroyable, L'éloge funèbre du cinéma, date 33. Hein, Artaud, quand même, toujours, on dit qu'il n'est pas politique. Hein, et donc là, vraiment, il dit que le cinéma à côté du théâtre, en fait, il a raté par le parlant sa cible. Et donc là, il s'engage vraiment dans la question du Théâtre de la Cruauté. Il commence à proposer son projet à la NRF et tout ça. Et ensuite, il monte les Chensi. Mais sa vraie réalisation du Théâtre de la Cruauté, pour moi, bon, elle a lieu dans l'enregistrement radiophonique, ça c'est sûr, mais elle a lieu dans un endroit où je pense seuls les Tarahumara ont pu voir. Parce que j'ai compris en regardant les films de Raymond Carrasco et de Régis Ebrault, qui ont mis des années à pouvoir filmer les rites, parce que le peuple Tarahumara, qui est un peuple qui court, qui a l'habitude de se dissimuler dans le paysage, etc., pour échapper à l'Inquisition et à tout ce qu'ils ont pu vivre comme violence politique. Artaud, lui, il a mis 6 semaines. Et donc, on se demande, moi je me demande, comment il a fait pour aller si vite, pour gagner la confiance d'un tel peuple. Je pense que c'est là qu'il a mis au point une forme du Théâtre de la Cruauté, qu'on verra pas, mais qu'on peut entendre peut-être dans la radiophonie, mais qui est le rapport au cri, aux non pas au cri, mais aux onomatopées, à une expression qui fasse comprendre à ce peuple la nécessité d'Artaud d'en passer au Peyolt. Bon, alors là, c'est moi, hein. Mais bon, moi je dis ça comme ça.
Vous êtes là pour ça. Et c'est quoi le rapport entre le théâtre avec le théâtre Alfred Jarry? Parce que les gens quand vous leur dites le mot Jarry, ben, ils pensent à Ubu, puis on met un point, c'est fini.
Tout à fait. Alors, avec Paco, d'ailleurs, on avait fait un travail pour essayer de montrer tout Jarry. Paco me faisait une conférence qui démarrait par l'enterrement de Stéphane Mallarmé, auquel Jarry assiste en talons jaunes et hauts, d'ailleurs, et qui marque le moment de rupture dans le monde des lettres, entre tout ce moment où la poésie était vraiment l'élément noble, et on passe au roman, on y est encore. Mais c'est surtout qu'on redécouvre Jarry à cette occasion sous tous ses aspects magnifiques, Messaline, Les jours et les nuits, Rabelais, etc.
Et c'est un texte énorme, très difficile.
Oui.
Non, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Lequel?
L'ensemble de Jarry.
Oui, Fosterolles, etc.
Bien sûr. Quand on sort.
C'est une connaissance. C'est comme Artaud, en fait. C'est-à-dire, il a laissé une empreinte avec Ubu qui est restée, voilà, et qui lui colle à la peau. Mais il en jouait de son vivant, puisqu'il avait, paraît-il, une voix robotique, etc. Bon, il s'appelait lui-même Père Ubu et tout. Mais en fait, quand on découvre en fait, l'ampleur de son œuvre, la richesse de cette œuvre. Et de cette destinée courte aussi, hein, parce qu'il est mort jeune, j'arrive, je ne sais plus exactement, mais 37, ouais. C'est vertigineux.
J'avais un éditeur rue Racine, c'était Guy Chambellan, qui marchait à 6 litres de vin par jour, un être, et qui avait sorti une collection qui consistait à prendre 3 contemporains et ce qu'il appelait un ancêtre prodigieux. Et donc il a sorti des Verlaine, il a un Verlaine, un Germain Nouveau, et un jour je lui ai dit, mais pourquoi tu ne sors pas un Jarry? Et il a, lui qui était un intellectuel, un philologue, quelqu'un qui a été critique, qui avait tout l'attirail, m'a dit, parce que je n'y comprends rien. Et j'avais trouvé cette franchise extraordinaire. Et effectivement, lorsqu'on lit, on lit les minutes, je ne sais pas si les minutes du sable...
Mémorial.
Mémorial, c'est d'une complexité. Mmh.
Et qui contiennent le vrai Ubu.
Mmh. Oui. Bien sûr, le vrai
Mais
Ubu.
Mais ce qui est très complexe pour moi et que je connais moins, c'est aussi toute la dernière partie voilà, de chantiers de Jarry qui sont non achevés, mais qui contiennent des choses fabuleuses. Et là, il y a encore beaucoup de travail pour le faire connaître, en fait. Parce qu'il est petit à petit réduit à
Virginie, avant qu'on se quitte tout à l'heure, vous avez fait une petite parenthèse. C'était sur vos origines lilloises, sur le Parti communiste, etc. Et moi, je me demandais hier, vu que les temps ont changé, et puis on vit dans une époque qui est un peu étroite selon moi, qui vient vous voir ?
Vous parlez du
public, qui vient vous voir ? Hier, je me suis demandé.
Alors, ce qui est vraiment fantastique, c'est que finissent par... Alors d'abord, je voudrais remercier les magnifiques personnes qui dirigent ce lieu.
Alors, franchement, au niveau de la courtoisie, vous leur direz chapeau, c'est vraiment très bien.
Alors, il s'agit d'Alain Barsac,
très bien.
Le directeur...
Du décorateur, c'est ça ?
Absolument. Oui. Et sa femme, qui est actrice et metteur en scène, Agathe Alexis, qui dirige ce théâtre donc, depuis de nombreuses années... Et qui sont des personnes sublimes, avec une mémoire de théâtre et aussi du côté de la Russie, vraiment très puissants, et qui, là, du fait de leur âge, doivent passer la main selon les institutions. Mmh. Parce qu'il faut dire aussi que le débat du cœur, et j'y tiens, nous, on est vraiment hors radar institutionnel. D'accord. Et donc, on atterrit à la Talente, c'est un alignement d'étoiles.
Franchement, entre parenthèses, c'est un plaisir. Hein.
Ah, mais c'est superbe.
D'accord,
c'est là, plaisir. Ça a beaucoup de sens que ça se fasse là.
Mais je me demandais qui vient.
Alors, qui vient ? Eh bien, bonne question. J'ai eu, pour l'instant, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de parler à tout le monde, mais j'ai fait de magnifiques rencontres. Des gens qui traduisent Artaud en russe. Enfin, des gens. Une chercheuse qui traduit Artaud en russe. Magnifique, que j'espère revoir. Des gens qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de Colette Thomas, mais qui veulent en savoir plus. Des gens qui ont conscience que cet espace, la place Charles Dullin, etc., s'agite des spectres, là, un peu attirants. Qui vient des gens qui sont concernés. Et par exemple, Ilios, que je découvre à cette occasion. Alors, c'est ça qui est génial.
Malheureuse, c'est pas ce que vous avez fait là, malheureuse.
Voilà, pas encore.
Avant qu'on se quitte, ben, nous, on va se revoir, Ilios, avec il n'y a aucun problème. L'invitation ben, faite à Paco Nantiellement, sans aucun problème.
Okay.
Paco Main. Lire ce livre, La véritable histoire d'Artaud le Momo, Gérard Mordilla. Hein, c'est magnifique, c'est humain, et c'est une tristesse. J'ai trouvé ça une tristesse, voir ces visages comme ça. Et puis le dernier chapitre sur Colette Thomas, justement, je ne veux pas en parler, c'est comme ça. Je voulais même le lire et je ne le lirai pas.
Il y a même le DVD dedans.
Il y a le DVD, oui. Et puis alors là, la voir sur l'écran, hein, voilà. Oui. Moi, je suis peut-être le seul au monde d'avoir entendu sa voix, alors on ne peut rien le faire. Voilà, je ne sais pas. Et puis bon, ben, allez voir, il nous reste combien de jours alors ?
Trois.
Bah,
oui, ce soir, mercredi et jeudi.
Et donc c'est à la Talente. Vous avez les horaires quand même
Alors lundi et mercredi à 20h30, mais attention, jeudi la dernière le 23 décembre à 19h.
À 19h. Et c'est métro Anvers, théâtre de la Talente
Métro Anvers ou Pigalle.
Et vous avez l'intention de le reprendre Vous avez des dates ailleurs
Pour l'instant, non. Hein. Non, c'est. Mais je pense que cette pièce va rebondir parce qu'elle a... Et là, je parle pas forcément de moi, mais je veux dire, ce sujet, Colette, Artaud, là, il y a vraiment un truc nouveau. On découvre quelque chose, une correspondance aussi, pour finir, pour pas monopoliser, mais on connaît le Artaud épistolier formidable qui a écrit au monde entier. Mais là, on a une correspondance, c'est-à-dire une femme lui répond. Et l'interroge aussi.
Non, et c'est vrai que la vérité doit être rétablie sur Colette Thomas, parce qu'on l'a présentée comme la petite fille ignorante, parce que bon, le monde littéraire est un peu machiste, à mon avis, surtout à cette époque-là. Et je trouve que ça lui fait justesse de la mettre au premier plan et ne pas parler que d'Artaud.
Et puis quel courage d'avoir vécu Artaud de face comme ça.
Alors, il faut dire qu'Artaud a reconnu son talent d'écriture, il faut vraiment le souligner.
Je disais hors antenne tout à l'heure, aussi bien pour Gaston pour la psyché Gaston Ferdière, on en pense ce qu'on veut, hein. Mais aussi bien les gens qui ont fréquenté Artaud que les intimes, quel problème, quelle interrogation sur l'être.
C'est complexe. Moi,
Non, je pense que même Ferdière. Ferdière, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Sur la gagne de la patrie, je consacre la dernière partie sur ça.
Ouais, c'est une interrogation permanente.
Oui, il y a. En fait, il y a des choses... Parce que Ferdière était un anarchiste, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Quelqu'un, entre guillemets, ouvert d'esprit. Mais bon, après...
Anarchiste, c'est peut-être...
Oui, non, il était vraiment...
Avant qu'on... Et un surréaliste.
Non, anarchiste... Non,
un compagnon de route.
Il se dit comme ça.
Il se dit, oui.
Une des après, on se quitte. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux. Hein.
Merci de votre invitation, c'est vraiment chouette.
Lors d'une manifestation du théâtre Alfred Jarry, Breton Anco viennent foutre le bordel.
Oui.
Ça, vous le savez.
Oui, oui.
Et ça me plaît parce que savoir qu'il n'en ait pas tiré conséquence après la guerre en 46, etc., moi j'adore.
Mais je crois que c'est cette fois-là où Artaud a fait appeler les flics. Et ça, Breton, il lui en a voulu énormément. Hein. Mais c'est rigolo si on se transporte, par exemple, plus récemment, avec Genet à l'Odéon et tout. Enfin, je veux dire, bon, là, on ouvre un autre dossier.
C'est autre chose.
Mais. C'est peut-être l'époque où Breton, je ne sais pas, j'ai pas creusé, mais confondait théâtre et spectacle. Justement, pour boucler avec votre introduction.
Monique, merci, c'était un plaisir.
Merci,
pour dire merci à Monique quand même.
Qui nous merci supporte, Monique.
Monique.
Merci Monique.
C'est pas facile. Hein.
Générique si vous voulez, Monique. C'est un plaisir.
Vous êtes prêts, messieurs ?
Yes.
Il y a des jours comme ça où je n'ai pas sommeil. Je tourne et je vire. Je recompte mes orteils. Il y a des jours comme ça où je n'ai pas sommeil. Mon grand lit est une farce tout pleine, les yeux au plafond. Je baille aux oiseau crie. Va fermer. Range ta contrebasse et viens sous ma jupe m'embrasser, me faire retourner comme si j'allais encore m'envoler. J'ai fait attention à l'amour, je ne l'ai jamais gaspillé. Dans le cendrier, je vais glisser sur les étoiles, tomber, je ne sais plus nager. Souviens-toi de moi de temps en temps. Allez, allez, fais-moi danser.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, donc après la voix charmeuse de Monique, Serge derrière le micro, et Nicolas n'est pas avec nous, ben, il bosse, il est dans un tournage, mais vous verrez qu'à la fin de l'émission, il nous a envoyé, sinon son testament du moins, quelques petites annonces à faire, comme c'est lui qui les fait d'habitude. Donc, il est tout cœur avec nous, et puis il viendra bientôt nous rejoindre. Voilà. Donc, comme d'habitude, une petite présentation de l'émission d'aujourd'hui et de notre invité. Voilà. La traduction en français du livre « Les veines ouvertes de l'Amérique latine » en 1981 avait eu un écho très important dans notre pays. Son auteur, Eduardo Galeano, journaliste écrivain, y dénonçait la spoliation des richesses du continent américain, de la colonisation espagnole jusqu'au ravage de l'impérialisme. Depuis quelques années, les éditions du Québec Luxe ont entrepris de publier en français d'autres ouvrages majeurs de cet auteur, décédé à Montevideo en 2015. Nous présentons aujourd'hui, donc le titre du livre, « Sans dessus-dessous, l'école du monde à l'envers », dans lequel il décrit le monde qui est le nôtre, exacerbation des injustices et des inégalités, dévastation de la planète, haine sexiste et raciste, règne de la domination et de l'exploitation par des élites politiques et économiques, violence et guerre partout présentes, et malheureusement, j'en rajoute trois petits points, voilà, c'est moi qui ai mis les trois petits points au bout de tout ça. Avec humour et sarcasme, il déplore. Le XXe siècle, né sous le signe de la Révolution, est mort marqué par le désespoir. Ce monde à l'envers nous fait perdre espoir en la capacité humaine de changer l'histoire. Car il nous apprend à subir la réalité au lieu de la changer, oublier le passé au lieu de l'écouter, et accepter l'avenir au lieu de l'imaginer. Ça, c'est des paroles donc, de l'auteur. Refusant de s'agenouiller devant l'un des deux autels, capitaliste libéral ou capitaliste d'État, il s'intéresse aux mouvements sociaux alternatifs, telles les communautés zapatistes au Mexique et les sans-terre au Brésil. Donc, pour nous en parler, nous recevons Lydia Bandestak, traductrice d'un ouvrage qui est encore plus d'actualité, malheureusement d'ailleurs, aujourd'hui. Le capitalisme mondial étendant ses crimes partout dans le monde. Voilà, Lydia, alors, on te connaît un peu, donc j'étais heureusement surpris à la fois de la sortie de ce livre, parce que moi j'en étais, c'est pour ça que j'ai commencé l'annonce par les veines ouvertes de l'Amérique latine. Honnêtement, ça avait vraiment fait du bruit, enfin notamment pour moi, mais pas que pour moi, et je savais pas trop, ce qu'il avait écrit, ce monsieur, enfin j'avais pas suivi, et je remercie les éditions Luxe d'avoir envie d'en sortir un maximum, parce que j'étais très impressionné par ce bouquin aussi, là, dont on va parler. Et donc, voilà, comment tu as été amené à t'intéresser à Eduardo, et en tout cas à ce livre, et à faire la traduction, parce que je ne savais pas que tu avais des capacités de traduction. C'est un Uruguayen, donc en plus, c'est au-delà de connaître l'espagnol, quoi. Il y a vraiment des choses à connaître. Et on ne traduit pas un bouquin comme ça. Et en plus, il y a un style, il y a tout ça. Enfin, tu vas pouvoir nous en parler. Donc, je suis un peu curieux de savoir comment tu as eu cette approche.
Ah oui, alors c'était vraiment toute une aventure. C'était dans les années 2000. Effectivement, Eduardo Galeano était connu pour les veines ouvertes de l'Amérique latine. Et puis, j'ai un ami qui avait monté